Bonjour à toutes et à tous, Isabelle Dupuis pour ce journal de la radio des Nations Unies, avec en titre « Annonce de pourparlers de paix pour le Yémen ». OCHA lance son appel humanitaire pour 2016, gros plan sur la COP21 avec Irina Bokova de l'UNESCO et Janosch Pastor. Le HCA organise des ateliers pour combattre la violence sexuelle en RDC, en Côte d'Ivoire, fin de formation professionnelle pour des ex-combattants, et puis dans Fréquence Santé, le point sur les maladies d'origine alimentaire. L'envoyé spécial pour le Yémen a annoncé ce lundi à Genève qu'après des semaines de consultations intensives, les parties au conflit avaient décidé de tenir des pourparlers de paix le 15 décembre en Suisse. Ismaël Ulcheg Ahmed a signalé qu'il demeure gravement préoccupé par la souffrance croissante du peuple yéménite, mais a néanmoins indiqué qu'il y avait de nombreux signes positifs quant à la possibilité d'instaurer prochainement un cessez-le-feu dans le pays. On l'écoute.
On aura une discussion sur le cessez-le-feu, qui est une des grandes priorités. On espère avoir un cessez-le-feu dès le début des pourparlers. Mais pour le consolider, pour qu'il soit durable et définitif, il faut en parler. Ensuite, on parlera du mécanisme à mettre en place pour assurer le retrait des milices et des groupes armés de différentes parties du pays. Le troisième point portera sur l'armement et comment aborder la question des armes de gros et de moyen calibre. Le quatrième point portera sur les mesures de rétablissement de la confiance. On examinera l'accès humanitaire, on examinera la question des prisonniers, on examinera les questions liées à l'économie. Enfin, on débattra de la reprise du dialogue politique et des discussions politiques entre les parties.
En 2016, les organisations humanitaires auront besoin de 20,1 milliards de dollars pour apporter une aide d'urgence à plus de 87 millions de personnes parmi les plus vulnérables et marginalisées. C'est l'annonce faite lundi à Genève par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU lors de la présentation de l'appel humanitaire global pour 2016. OCHA précise que ce montant vise à répondre à une situation et à des besoins jamais vus en une génération. Jérôme Longuet.
Pour aider plus de 125 millions de personnes vulnérables en 2016, l'ONU a besoin de 20 milliards de dollars, un montant 5 fois supérieur à celui demandé il y a 10 ans. L'appel humanitaire reflète l'effort global par lequel des centaines d'organisations fournissent aide alimentaire, abris, médicaments, protection, éducation d'urgence et toute autre forme d'assistance de base aux populations dans les régions touchées par les conflits et les catastrophes. L'appel pour 2016 doit financer des actions dans 37 pays. Les conflits en Syrie, en Irak, au Soudan du Sud et au Yémen resteront parmi les plus grands facteurs créant des besoins humanitaires en 2016, provoquant de nouveaux déplacements à l'intérieur des pays et à travers les frontières. D'ores et déjà, dans le monde, le nombre de personnes forcées de quitter leur foyer a déjà atteint 60 millions, niveau jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Autre record, celui du déficit de financement, la moitié à peine des 19,9 milliards de dollars demandés pour 2015 ont à ce jour été mobilisés.
À Paris, à la conférence sur le climat, les délégations ont entamé ce lundi une seconde semaine de négociations pour aboutir à un accord universel pour limiter la hausse des températures en dessous de 2 degrés. Intervenant devant les négociateurs, le secrétaire général a d'ailleurs souligné que pour les îles Basses et les pays les moins développés, même une hausse de 1,5 degré aurait des conséquences graves. Une situation qui menace également plusieurs sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme l'explique Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO.
Je crois qu'un accord sur le climat, c'est très pertinent de tout le travail de l'UNESCO parce que nous savons que 30% des sites sur la liste du patrimoine mondial sont des sites naturels, ce sont des forêts, ce sont des sites subaquatiques ou dans le désert. Nous savons aussi comment ils sont endommagés par le changement climatique. Nous avons aussi plus de 600 réserves de biosphère partout dans le monde et nous considérons qu'à travers le travail de notre commission intergouvernementale océanographique qui mène toute la science sur l'océan, mène le combat contre la pollution, l'acidification des océans, je dirais aussi tout ce qui affecte les vies des différentes communautés. Alors tout ça est très pertinent à notre travail.
En République démocratique du Congo, le HCA organise une série d'activités dans la province du Sud-Kivu pour sensibiliser à la lutte contre les violences sexuelles. Organisés autour du thème « Assurer une éducation sécuritaire pour tous », ces ateliers qui ciblent en premier lieu les réfugiés ont pour objectif de réduire les inégalités, de promouvoir l'égalité des chances et d'encourager le développement de relations saines entre filles et garçons. Les détails avec Odile Babonga, chargée de questions de violences basées sur le genre au HCR Bukavu.
C'est un thème qui touche l'éducation. Il s'agit de la paix à la maison pour la paix dans le monde. Assurer une éducation sécuritaire pour tous. Nous avons prévu travailler avec les jeunes réfugiés, les parents, les leaders locaux, les chefs de village. Nous avons prévu travailler avec les noyaux scolaires en collaboration avec notre partenaire IEDA. Le but, c'est d'assurer une éducation sûre, l'accès à l'éducation à tout le monde pour lutter contre les inégalités liées au genre. Dans tous les aspects de la vie scolaire, on veut réduire vraiment les inégalités, promouvoir l'égalité des chances, encourager le développement des relations saines entre les élèves, filles et garçons.
En Côte d'Ivoire, dans la région du Bas-Sassandra, 75 ex-combattants ont reçu ce week-end leur attestation de fin de formation professionnelle au métier de cariste, de chauffeur de poids lourd, de conducteur de chargeuse et de pelleteuse, de magasinier ou encore de manutentionnaire. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet Proform, un programme d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes, qui est financé par l'Union européenne et piloté par l'Organisation de l'ONU pour le développement industriel et l'Agence allemande de coopération internationale. Les détails avec Kofi Benson, correspondant d'ONU-CIFM.
À ce jour, nous avons formé 950 ex-combattants, ceux qui viennent de recevoir des diplômes. Nous avons la charge de les aider à se réinsérer dans le tissu professionnel.
S'adressant aux ex-combattants, le directeur de la formation professionnelle, Fofie Kofi, a rappelé qu'un bon comportement serait un atout pour un bon usage de l'attestation de fin de formation. Une attestation symbole d'un nouveau départ pour TI Jean.
Ça me fait plaisir de recevoir mon diplôme parce que c'est un avantage pour moi de pouvoir m'insérer dans la vie parce qu'on nous appelait ex-combattants. Aujourd'hui, on n'est plus. Nous sommes des civils et je suis très content. Plus d'âme dans la vie, c'est bon. On passe à la paix, c'est tout, on a fini.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur la COP21. Pour mieux comprendre les enjeux de ce grand rendez-vous planétaire, je vous propose d'entendre de nouveau l'interview de cadrage que nous avait accordé il y a quelques jours Janosch Pastor. Au micro de Christina Silvero, le sous-secrétaire général de l'ONU sur le changement climatique rappelait déjà que la conférence ambitionne pour la première fois en plus de 20 ans de négociations à l'ONU d'obtenir un accord universel juridiquement contraignant sur le climat.
On attend un paquet de décisions qu'on appelle l'Alliance de Paris. Il y aura 4 parties de ce paquet. D'abord, il y aura le plan des pays pour réduire les émissions. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y aura un accord. Et l'accord, c'est dans le fond le règle de jeu. Comment les pays vont traiter les plans nationaux et comment ils vont augmenter l'ambition chaque 5 ans pour assurer qu'on reste au-dessous de 2 degrés. Troisièmement, il y aura la question de financement du changement climatique, parce qu'il faut payer pour tout ça. Et quatrièmement, il y a l'agenda d'action, l'agenda de solution pour montrer ce qui se passe déjà dans le monde et quels sont les bons exemples de ce qu'on peut faire.
Alors, quels sont les défis qui restent pour justement arriver à cet accord et à ce financement ?
Il nous reste très peu de temps de négociation. On a un texte qui est maintenant sous négociation et il reste très peu de jours, donc c'est difficile. Le texte est long et il y a beaucoup de questions politiques qui sont difficiles à résoudre. Donc c'est simplement le temps qui nous reste, c'est ça qui est difficile.
Vous évoquez des questions politiques difficiles à résoudre. Pouvez-vous nous en donner un ou deux exemples ? Par exemple, le fait que l'accord doit être différent.
Oui, vous avez mentionné la première chose qui rentre aussi dans ma tête, c'est la question de différenciation entre différents pays. C'est une question politique très importante parce que ça a un effet sur la question de financement, ça a un effet sur comment les pays vont faire des rapports sur ce qu'ils font et quelles sont les responsabilités de chaque pays, de chaque groupe de pays. Il y a certains pays qui veulent grouper des pays, il y a d'autres qui veulent la même règle pour tout le monde. Et ça, c'est déjà très difficile. Deuxièmement, il reste encore la question de financement qui est très difficile parce que les pays n'ont pas beaucoup d'argent public, mais il y a cet objectif de 100 milliards de dollars par an que les pays du Nord doivent donner aux pays du Sud chaque année jusqu'à 2020 et après 2020. Donc ça reste un défi. On a un progrès depuis Lima, de la conférence de Lima qui a eu lieu en octobre, mais il reste encore beaucoup à faire.
Alors, quelle est l'importance de cette conférence COP21 à la lumière du nouvel agenda de développement durable qui a été adopté à l'horizon 2030 et dans lequel figure d'une façon si prévalente le changement climatique ?
C'est très important. Pourquoi ? Bon, il y a 17 objectifs de développement, donc il y a un objectif sur le changement climatique. Mais dans le fond, ce n'est pas ça qui est important. Il y a 12 autres objectifs qui sont très, très liés au changement climatique, qui ont des cibles qui sont très spécifiques pour le changement climatique, comme l'énergie, comme la forêt, comme l'océan, comme l'éducation. Donc, si vous voulez, on ne peut pas achever les ODD, les objectifs de développement durable, sans arriver à notre objectif de moins de 2 degrés au niveau changement climatique. Mais le contraire est aussi vrai, dans le sens que pour arriver à cet objectif de moins de 2 degrés, il faut mettre en œuvre tout ce qui est objectif de développement. Donc, les deux agendas sont complètement liés. Et quand on parle de plans nationaux des pays, ces fameux INDC, l'acronyme, c'est vraiment la mise en œuvre des objectifs de développement durable. C'est la question énergétique, la ville, les forêts, c'est tout ça ce qu'il faut faire pour arriver aux objectifs de changement climatique. Et dans ce sens-là, les Nations Unies ont un rôle très important pour être là et assister les pays en développement, assister tous les pays, dans le fond, pour arriver à ces objectifs.
Fréquence, santé.
Chaque année, une personne sur 10 tombe malade après avoir consommé des aliments contaminés et 420 000 en meurent, dont près d'un tiers sont des enfants de moins de 5 ans. C'est ce qu'indique un nouveau rapport de l'OMS intitulé « Estimation de l'impact mondial des maladies d'origines alimentaires ». Fruit de 10 ans de travaux, c'est le document le plus complet à ce jour à traiter de ce sujet. Pour en savoir plus, Tsige Shifera a tendu son micro au Dr Kazuaki Miyagishima, directeur pour la sécurité sanitaire des aliments à l'OMS.
Premièrement, les maladies diarrhéiques occupent une place importante. Nous avons dit qu'à peu près 550 millions de personnes développent une diarrhée. Ça montre bien que les agents qui sont à l'origine de diarrhée, tels que norovirus, Escherichia coli pathogénique, campylobactère ou le salmonelle sont des agents majeurs.
Dans votre rapport, vous mentionnez qu'en fait, avec 550 millions de malades, il y aurait plus de 200 000 décès par an. Vous confirmez ces chiffres?
Exactement. Globalement parlant, c'est 420 000 décès dus à toutes les causes, dont 230 000 par une maladie diarrhéique.
Les enfants sont-ils durement touchés, eux aussi, par ces maladies?
Oui, c'est exact. À peu près 30% de charges de ces maladies sont imputées aux enfants de moins de 5 ans. Les enfants sont vraiment un groupe particulièrement vulnérable.
Et quelles sont les causes de ces maladies?
Alors, nous avons toutes sortes de causes pathogéniques. Il y a le virus, non seulement le nouveau virus, mais aussi le virus de hépatite A est transmissible par les aliments. Nous avons toute une gamme de parasites qui contaminent les aliments. Mais il ne faut surtout pas oublier les produits chimiques ou toxiques, non seulement d'origine humaine, mais aussi d'origine naturelle, tels que l'aflatoxine ou bien les cyanures qui fait partir de fleurs de cassava si elle n'est pas bien produite.
Vous mentionnez aussi tout de même que certaines des maladies émergent tout simplement du fait que certains aliments ne soient pas suffisamment cuits, pas suffisamment propres et donc contaminent les gens.
Beaucoup de maladies transmissibles par les aliments, on peut les prévenir. Les pathogènes microbiennes peuvent être contrôlés ou neutralisés par une application de bonne température de cuisson ou bien la bonne température de conservation des aliments. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour prévenir ces maladies.
Pourriez-vous brièvement revenir sur les conséquences que ces maladies peuvent avoir, notamment au niveau des enfants?
Les enfants sont particulièrement vulnérables et la mortalité est plus élevée que chez les adultes, parce que les enfants ont un système immunitaire qui est moins développé que l'adulte. Et s'ils consomment les aliments peu salubres, ça peut entraîner le retard en termes de développement physique et mental et que les conséquences peuvent être chroniques.
Et quelles sont les recommandations que vous faites aux instances concernées?
Chacun a un rôle à jouer pour adresser les questions. Côté la production de la chaîne alimentaire, il est vraiment important que le gouvernement prenne la conscience de l'ampleur et de l'importance de ce fléau et faire en sorte que tous les agents, tous les ministères de l'agriculture, de la santé, du tourisme et de l'industrie travaillent ensemble main dans la main pour créer une vraie stratégie de lutte contre les maladies d'origine alimentaire.
Et c'est avec le docteur Kazuaki Miyagishima que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.